L'approche philosophique de la personne humaine par le père Marie-Dominique Philippe à Rimont, le 20 décembre 1995, quatrième conférence.
Si vous le voulez bien, je commence par répondre à quelques questions. Donc, je passe un examen. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre précisément à ces questions précises ? Que signifie ? C'est très bien. Il y a des mots comme ça que vous ne comprenez pas, c'est ce que je voulais vous dire. Il y a toujours une feuille séparée. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas, vous inscrivez et vous discutez au carrefour. Et si au carrefour, on ne voit pas, il y a des discussions, ça revient ici. Mais c'est très ordonné comme ça. Que signifie s'intérioriser ? Je comprends. Il y a diverses manières de s'intérioriser. Là, je prenais s'intérioriser au niveau philosophique. La vie est immanente. Donc, le vivant s'intériorise par l'immanence de ses opérations. Et l'immanence de ses opérations est parfaite lorsqu'il s'agit de la vie intellectuelle, spirituelle. La volonté, l'intelligence. Mais déjà, la vie végétative implique une certaine intériorisation, puisque le chocolat qui est devant vous sur une assiette est extérieur à vous et vous mettez à le manger. Est-ce que c'est le chocolat qui s'intériorise ? Ou est-ce que c'est vous qui, en mangeant le chocolat, intériorise le chocolat ? C'est une intériorisation très matérielle, n'est-ce pas ? La vie végétative, c'est quand même une intériorisation. La vue, ce que vous voyez à l'extérieur, il s'intériorise en vous voyant. Et lorsqu'il s'agit de l'intelligence fait que les réalités que je connais, je les porte en moi. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'intelligence divine, la grande trouvaille d'Aristote, que Hegel a repris au début de son encyclopédie, Aristote dit que la vie de Dieu, c'est noésis. Noéseos. Je traduis la pensée de la pensée. Puisque la pensée de la pensée, ce que Dieu contemple, c'est lui-même en acte de pensée, en acte de contemplation. C'est la contemplation de la contemplation. C'est l'intériorité la plus grande qui soit, l'immanence absolue, puisque l'objet n'est plus extérieur, mais il est intérieur, la pensée de la pensée. Hegel, qui cherche ce qu'est l'esprit, dit, c'est là que je découvre ce que c'est l'esprit, cette intériorité la plus absolue qui soit, l'immanence la plus grande qui soit. Donc, l'esprit, c'est la pensée de la pensée. Oui, la vie n'est parfaitement vie que dans l'immanence. Le vivant, c'est celui qui porte tout en lui. Et donc la pensée de la pensée exprime au point de vue de l'esprit ce qu'il y a de plus immanent. Donc, s'intérioriser, c'est de demeurer dans l'immanence vitale. Peut-on s'intérioriser soi-même ou est-ce quelque chose d'autre que nous qui nous intériorisons? C'est l'opération vitale qui, en tant que vitale, implique l'immanence et donc s'intériorise. Le grand vivant s'intériorise. Le petit vivant a besoin d'autres pour s'intérioriser. Il a besoin de médicaments, vous comprenez? Quand vous êtes très fatigué, vous avez de la peine d'assimiler. Alors on vous donne des médicaments pour aider l'assimilation. Donc quelque chose d'autre vient aider l'intériorisation. Mais l'intériorité la plus absolue, c'est l'intelligence qui se pense. La noésis, noéseos. Oui, alors, comprenons bien. Ceci, c'est la conclusion dernière de la métaphysique d'Aristote au livre Lambda, chapitre 6. C'est la conclusion dernière de la réflexion philosophique d'Aristote sur Dieu. Dieu, c'est le vivant qui se pense. Dieu est le vivant qui s'aime. Parce que si la pensée de Dieu regardait une autre réalité que lui, cette autre réalité que lui viendrait le perfectionner. Et donc Dieu serait capable de croître. Il ne serait plus Dieu. S'il est Dieu, il est l'être premier parfait, infiniment parfait. Et donc, il ne peut que se penser. Donc, ce qui est la conclusion dernière de toute la philosophie d'Aristote va être le point de départ. Et si on est au terme de la pensée d'Aristote, ça va être le point de départ de la philosophie hégélienne. Dans son encyclopédie. C'est curieux, ça. Il commence son encyclopédie par la parole d'Aristote. L'esprit, c'est celui qui se pense. C'est la pensée de la pensée. Et Aristote dit ça pour l'intelligence de Dieu. Hegel le dit pour l'intelligence. C'est toute la différence. Oui, la conclusion d'Aristote, c'est par rapport à l'intelligence de Dieu. Dieu se pense, Dieu se contemple. Et Hegel le dit pour l'intelligence comme intelligence. Donc mon intelligence, puisque je suis intelligent, et Hegel se considère comme intelligent, et il l'est. Puisque je suis intelligent, le mouvement propre de mon intelligence, c'est de se penser. Or, le philosophe doit redécouvrir la pureté même de l'intelligence dans son état d'innocence. Dans son état le plus pur. Donc, l'intelligence du philosophe, c'est de se penser. C'est l'intelligence de Dieu. Et c'est pour ça qu'au terme de l'encyclopédie, Hegel se considère comme vivant, comme Dieu. Aristote avait dit ce que le philosophe contemple par moment, Dieu contemple toujours. Et Hegel dit, mon intelligence, en se connaissant, en se contemplant, elle est Dieu. C'est curieux, hein, ces rapprochements, c'est très, très éclairant, ça. Du moins, pour moi, c'est très éclairant. Et je crois que c'est très éclairant, parce que ça montre la confusion chez Hegel entre l'intelligence et les diverses modalités de l'intelligence. Mon intelligence, je suis l'homme et l'être le plus faible dans son intelligence. Les anges sont plus parfaits que nous. Et Dieu est plus parfait que nous. Et donc, il connaît d'une manière plus profonde que nous. Tandis que pour Hegel, mon intelligence et celle de Dieu, on est copains. C'est la même. Descartes avait déjà dit ma liberté et celle de Dieu sont les mêmes. Quelle est l'origine de la liberté? Le fondement radical de la liberté, la connaissance. Vous voyez, il y a ces répétitions très extraordinaires. Oui, c'est un problème. Je me suis toujours demandé pourquoi les erreurs se répètent plus facilement que la vérité. Ah, posez-vous la question, ça, c'est très intéressant. Comment se fait-il qu'une erreur se répète ? Descartes, Hegel. Pas tout à fait les mêmes individus. Hein. L'un catholique, l'autre luthérien. C'est déjà quelque chose de différent. L'un français, l'autre allemand. Et ils se donnent la main dans la même erreur. Les erreurs du néoplatonisme se répètent jusqu'à ce jour. Tandis qu'à la recherche de la vérité, on doit toujours tout reprendre. Ça ne se répète pas, la vérité. Ça se vit. Et donc ça se redécouvre. Dès que vous répétez la vérité, ce n'est plus la vérité qui est répétée. C'est vous qui répétez la vérité. C'est très curieux, ça. Vous voyez, l'erreur, ce sont des ornières. Hein, difficile d'en sortir. La vérité, c'est un sommet. Alors ça ne se répète pas, mais ça rend témoignage. N'y a-t-il pas une fausse intériorité où l'on se coupe de l'autre ? S'intérioriser peut sembler s'opposer à s'ouvrir à l'autre. Comment expliquez-vous la vraie intériorité qui nous laisse en même temps ouvert au ton extérieur pour ne pas s'enfermer en soi? Très bien. La fausse intériorité, c'est l'intériorité imaginative. L'imagination, c'est là où on retrouve les premières synthèses imaginatives. C'est une certaine intériorité. Je ferme les yeux, je peux m'imaginer quelque chose de merveilleux, une merveilleuse lumière, éblouissante. Je peux imaginer tout ça. Mais ce n'est pas une véritable intériorité. C'est une intériorité imaginative que je me fabrique, qui n'est pas vrai. La véritable intériorité, c'est pour l'intelligence découvrir la vérité. Et pour l'amour, c'est aimer un ami qui m'aime. Dans l'amour d'amitié, il y a on aime, on est aimé, on aime, on est aimé. On est aimé, on aime. Et plus on est aimé, plus on aime. Et plus on aime, plus on est aimé. C'est infini. Là, vous avez une intériorité spirituelle qui peut aller très loin. Vous touchez un certain absolu. La connaissance implique une certaine intériorité, mais une intériorité qui respecte l'autre. Voilà la véritable intériorité de l'intelligence. C'est une intériorité qui respecte l'autre. Je m'intériorise lorsque je pense, j'assimile, comme toute opération vitale, j'assimile intentionnellement, je pense au chat, je porte au-dedans de moi ce qu'est le chat. Mais il faut penser bien le chat. Et donc il faut de temps en temps regarder un vrai chat. Parce que si je me laisse aller à l'imagination, au bout d'un certain temps, le chat sera complètement transformé en une synthèse de chat. Et donc, ce sera plus du tout le chat. Et je suis obligé de rouvrir les yeux pour regarder si ce que j'imagine est encore vrai. Et ça, c'est le double mouvement d'intelligence. L'intelligence intériorise et l'intelligence vérifie. Elle est consciente d'intérioriser. C'est ce qu'on appelle en langage philosophique l'intentionnalité. Ça vaut la peine d'être écrit. L'intentionnalité. L'intentionnalité, c'est curieux, hein, c'est quelque chose de très curieux. C'est la manière dont ce que je connais est en moi. Le concept. L'idée. Le secret. Sont des réalités intentionnelles. Le concept est dans mon intelligence. L'idée est dans mon intelligence. Le secret est dans mon intelligence affective. C'est pour ça que je prends les trois. Ce sont des êtres intentionnels qui sont réels, mais d'une réalité seconde. Parce que l'intentionnalité, vous voyez bien, ça vient de intention. Vous savez très bien ce que c'est que d'avoir l'intention de faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est qu'avoir l'intention de faire quelque chose? C'est que j'ai formé en moi une intention, une orientation dans ma vie. C'est une intention. Et alors, l'intentionnalité, c'est ce par quoi l'intention est intention. Vous savez, toujours, faut toujours revenir à blancheur. Et blanc. Cherchez dans le dictionnaire, petit Robert. Qu'est-ce que c'est que blanc? Qu'est-ce que c'est que blancheur? Blancheur, ce par quoi le blanc est blanc. Vous savez ce que c'est qu'un blancheur? Ce par quoi le blanc est blanc, intentionnalité, ce par quoi l'attention est intention. C'est la forme abstraite. Et ici, c'est la forme concrète. Je peux voir le blanc du mur. Du visage. Je n'ai jamais vu la blancheur, sauf en réclame. Vous n'avez jamais vu la liberté, sauf en statut. Statut de la liberté. Mais vous avez conscience d'actes libres. Ça n'a l'air de rien, ça. Mais tout le monde confond les deux. Et la philosophie, constamment, quand elle n'est pas réaliste, confond les deux. Alors au bout d'un certain temps, vous ne savez plus du tout où est le réel. Puisque blancheur, vous n'avez jamais vu la blancheur. Moi, je ne l'ai jamais vu. On peut dire, oh, j'ai vu la blancheur de la neige. Mais non, vous avez vu que la neige était blanche. Pas la même chose. La blancheur, c'est ce par quoi le blanc est blanc. C'est la forme en soi de Platon. Donc il y a une fausse intériorité. C'est celle de l'imagination. Parce que je ne connais l'autre qu'en projetant sur l'autre ce que je porte de l'autre. C'est ça qu'on fait dans l'imagination. Oh, je te connais très bien. Et on ne le regarde même pas. On projette. C'est une fausse intériorité. La véritable intériorité est celle de l'intelligence qui implique à la fois intériorité et vérification de cette intériorité par rapport au réel. Puisque mon intériorité intellectuelle est vraie quand elle est conforme au réel. Donc quand elle reste ouverte au réel, à ce moment-là, il n'y a pas du tout d'opposition entre intériorité et ouverture. L'intériorité, pour être parfaitement elle-même, réclame l'ouverture. Mais il peut y avoir une fausse intériorité, je m'enferme en moi-même. Et tous les nœuds psychologiques m'enferment sur moi. Il m'empêche de rejoindre l'autre. Qu'est-ce qui nous intériorise le plus? Vous comprenez? C'est la philosophie. Point de vue humain, qu'est-ce qui nous intériorise le plus? La recherche de la vérité. Ce n'est pas l'amour. Ah, c'est curieux. C'est curieux. Je suis sûr, je vous aurais demandé, suffrage universel, qu'est-ce qui nous intéresse? L'amour? Non, non, l'intelligence. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est se porter vers l'autre. L'amour est extatique. Il fait sortir de moi, extatique. Il fait sortir de moi. Tandis qu'au contraire, l'intelligence ne me fait pas sortir de moi, mais fait que ce que je connais, je l'intériorise. Je le prends chez moi et je le garde chez moi. Il y a une porte ouverte pour vérifier que c'est bien ça. Comment s'intériorise-t-on? En développant notre intelligence, en suivant des cours de philosophie. Oui, on pourrait dire session philosophique, session d'intériorisation. Alors, si on faisait ça aujourd'hui, ce serait faire du méditation, du zen. C'est ça l'intériorisation aujourd'hui. Méditation transcendantale du zen, parce qu'il ne faut surtout pas oublier, transcendantale, ça fait mieux, du zen. Alors quand je cherche, parce que j'ai un ami qui m'a offert de venir faire des sessions transcendantales du zen, je dis, je te remercie beaucoup. Je ne vais pas lui dire non tout de suite. Il a tous les diplômes. Parce que c'est s'il faut des diplômes. Alors il m'a montré où se situer parmi les transcendantales du zen. Bon. C'est une fausse intériorité. C'est l'intériorité imaginative. Très profonde, abyssale. Parce que, attention. transcendantale, il faut être abyssal. Donc c'est la transcendantale qui complètement brise et qui devient abyssale. C'est l'imagination. Je nie tout ce qui vient de l'extérieur. Je ferme les yeux. Je nie tout. Pour qu'il n'y ait plus rien. Est-ce que le néant existe ? Est-ce que le néant est intérieur ? C'est l'esprit qui est intérieur. C'est le vivant qui intériorise. Ce n'est pas le primat de la négation. La négation n'intériorise pas. Elle rejette. Alors on rejette des choses bonnes et on rejette des choses mauvaises. Rejeter les choses mauvaises, c'est très bien. C'est ça le léger. Rejeter les choses bonnes, est-ce que c'est s'intérioriser ? Ou est-ce que c'est s'appauvrir ? Ah ! S'appauvrir, est-ce que c'est s'intérioriser ? Ça peut être une possibilité de s'intérioriser. Mais ce n'est pas s'intérioriser. Il y a des gens qui n'ont rien, mais rien, dans aucun domaine. Est-ce qu'ils sont intérieurs ? Ordinairement, ils ont une avidité folle de récupérer ce qu'ils ont perdu. C'est juste l'inverse de s'intérioriser. Cette question est très bonne. Vous voyez, je vais encore plus loin, parce qu'il y a 6 points. Qu'est-ce qu'une véritable offrande spirituelle à Dieu ? Là, je quitte un peu le domaine philosophique, quoique pas entièrement. Le philosophe doit pouvoir comprendre ce qu'est l'adoration. Reconnaître que je suis totalement dépendant de Dieu dans l'ordre de l'être, dans l'ordre de mon exister. Ça. Et à ce moment-là, je me remets entre les mains de Dieu. Je me remets à la volonté du Créateur. L'adoration intériorise. Ça, c'est sûr. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Par l'adoration, vous fréquentez Dieu. Et donc, vous vous ouvrez à l'intériorité même de Dieu, qui est l'intériorité suprême. Qu'est-ce que c'est que l'offrande spirituelle à Dieu ? C'est remettre à Dieu ce qu'on possède, non seulement les choses matérielles, mais les choses spirituelles. Je peux remettre à Dieu en offrande tous mes biens, toute ma fortune matérielle, mais aussi tous mes biens spirituels. Je peux les offrir à Dieu. Et en les offrant à Dieu, je demande à Dieu de s'emparer le plus profondément possible de moi-même. Quand on offre quelqu'un à Dieu, de quoi disposons-nous vraiment ? Qu'on permet à Dieu de faire qu'il ne pourrait pas faire sans notre offrande. Dieu aime le faire par notre offrande que le prendre violemment. Donc vous maintenez une amitié. Autrement, vous risquez de vous mettre dans une position d'opposition. Je n'insiste pas plus, hein. Quoique c'est très important, hein. La différence entre s'intérioriser par la connaissance et l'offrande qui est un acte volontaire. C'est pas un acte d'intelligence, l'offrande. C'est faire que ce qui est à moi appartienne à Dieu. J'offre cela à Dieu. Oui, les mages qui viennent auprès de la crèche offrent l'or, l'encens, la myrrhe. Ça leur appartient, ils le donnent à Dieu. Donc, il y a un droit de propriété qui passe de nous à Dieu. Et le droit de propriété, ce n'est pas l'intelligence, mais ça présuppose l'intelligence. Seul un être intelligent peut-être propriétaire. Cela ne veut pas dire que tous les propriétaires sont intelligents. Non. C'est bien évident. Mais pour être propriétaire, pour avoir quelque chose et en user librement, il faut être intelligent. Et quand on offre quelque chose à Dieu, on offre ce qui nous appartient à Dieu. On lui donne. Alors, on a ajouté. Alors celle-là, c'est très bien. Et c'est bien de dire ça. Quand on offre quelqu'un à Dieu, de quoi disposons-nous vraiment? Si cette personne ne veut pas être offerte à Dieu, je n'ai aucun droit de l'offrir. Vous pouvez pas dire à quelqu'un, vous pouvez pas dire à quelqu'un, ah, tu veux pas t'offrir, mais bien moi je t'offre. Qu'est-ce que vous répondez à ce moment-là? C'est Dieu respecte plus la liberté de chacun d'entre nous qu'aucun homme ne la respecte. Et Dieu veut que ce soit nous-mêmes qui nous offrons, puisque nous avons un droit sur nous. Un droit d'intériorité sur nous, un droit sacré. Mais bon, alors je continue maintenant. Hein. On a vu tout à l'heure comment la philosophie reposait sur une certaine anthropologie. Voir l'homme travaillant, l'homme aimant, l'homme coopérant. Trois dimensions. Et dans l'homme coopérant, je mets la famille. Parce que le philosophe doit s'occuper de la famille. Doit s'occuper du travail et doit s'occuper de l'amour. Ce n'est pas suffisant. L'homme est plus que cela. Et c'est à partir de là que la recherche de la vérité va être une recherche d'une vérité dite spéculative. C'est-à-dire qu'on recherche la vérité pour elle-même. Qu'est-ce que c'est que la matière? Et non pas en vue de la transformer. Vous voyez, le charpentier, le menuisier, quand il est en face d'une planche, il la regarde, il la touche, et il se dit, qu'est-ce que je vais en faire? Je peux regarder cette planche et dire, ah, c'est du bois de sapin, du bois noir des îles. ça. Indépendamment de ce que je veux en faire, je connais ce bois. Puisque en disant ça, je lui donne certaines propriétés. La propriété du sapin n'est pas la même que celle du chêne. N'est pas la même que le bois des îles. Différent. Autre chose, je veux connaître le bois pour ce qu'il est. Alors, ce qui est très curieux, vous voyez, en grec, le mot loulé veut dire bois et veut dire matière. J'aime beaucoup cette ressemblance. Parce que j'ai dit que le travailleur travaillait une matière. La matière la plus proche pour l'homme, c'est le bois. Donc, où je regarde le bois pour voir ce que je peux en faire. Connaissance pratique, connaissance du travailleur. Où je regarde le bois pour savoir ce qu'il est en lui-même. Quelle est la qualité de ce bois? D'où vient ce bois? Et ainsi de suite. Donc, première connaissance de la matière, c'est par là que je comprends que mon corps est une partie de l'univers. Je dois connaître mon corps comme partie de l'univers. La science biologique. Je vois que le corps est très proche de ce que je trouve dans l'univers. Mais qu'il est en même temps la réalité physique la plus complexe. Aucune réalité physique n'est aussi complexe que le corps humain. Donc il est au sommet de la matière vivante. Dans la pyramide de la matière, il y a le corps de l'homme. Et si je suis attentif à la tradition biblique, je verrai que le corps de la femme est encore plus au sommet que le corps de l'homme. Puisque symboliquement, c'est à partir du corps de l'homme que le corps de la femme a été formé. Symboliquement. Alors, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? Je vous laisse conclure ça. Le philosophe ne peut pas conclure. Mais c'est curieux ça, et c'est intéressant. Et on doit se poser au moins la question. Pour Teilhard, c'est la complexité de la matière qui montre la perfection de la matière. Le corps est la matière la plus complexe, ayant la plus grande diversité dans l'unité. Et dans le corps, le sang, ce qui est le plus complexe. Vous avez su à un moment donné où on parlait de l'évolutionnisme constamment, on souhaitait pouvoir avoir des réserves de sang en cultivant ou en élevant des singes les plus perfectionnés qui soient pour qu'ils nous donnent des réserves de sang pour les hommes. Et on a vu que c'était impossible. Entre le sang de l'homme et le sang du singe, le plus plus habile, le plus perfectionné qui soit. Impossible. C'est un petit signe de l'irréductibilité. Vous savez que dans la Bible, il est dit que l'âme est dans le sang. Que l'âme, c'est le sang. Tradition judéo-chrétienne. C'est très beau, ça, du reste. Le sang, quelque chose de très unique dans le corps de l'homme. C'est, du reste, ce qui, d'une certaine manière, fait l'unité et source de tout le reste. Mais il y a deux sources d'unité au point de vue de la matière. Il y a la lumière et le sang. Vous allez dire, le sang, c'est le vivant. C'est vrai, c'est vrai. Mais quand... Alors, c'est le passage du vivant et du non-vivant. Et la lumière fait l'unité du monde physique, purement physique. On doit voir, dans cette perspective de l'étude de la matière, que l'homme fait partie de l'univers. Il y a aussi l'étude du vivant, comme vivant. Parce que l'amour d'amitié, si je l'étudie, me montre que l'amour d'amitié fait que l'ami voudrait que son ami ne meure jamais. Et l'échec terrible de l'amour d'amitié, c'est qu'il y a un ami qui peut mourir avant l'autre. Et en mourant, il y a la destruction de l'amour d'amitié. Une certaine destruction. Je dois donc étudier ce qu'est la mort au plan philosophique. Et pour étudier ce que c'est que la mort, il faut étudier ce qu'est le vivant. Je ne peux pas savoir vraiment ce qu'est la mort si je ne sais pas ce que c'est que le vivant. Il y aura donc toute l'étude de la philosophie du vivant, qui est autre chose que la science biologique. Et c'est dans cette étude de l'homme vivant que je découvre qu'il y a une âme qui anime le corps. Je dois découvrir cela. Il y a une âme qui est source d'unité du vivant. Et que par la vie, l'homme dépasse l'univers comme vivant. Et comme vivant, il a une unité substantielle, unique. Original. Et enfin, troisième philosophie spéculative, ce qu'on appelle la philosophie première ou la métaphysique. Voyez, je crois que c'est important pour nous. De bien voir ce triangle de base de l'homme. Le travail, l'amour d'amitié, la coopération. et à partir de là, verticalement, l'étude de la matière, l'étude du vivant, l'étude de ce qui est. Vous avez donc 6 parties de la philosophie. Et ces 6 parties de la philosophie parlent de la personne humaine. Il faut bien comprendre que le point de vue de la personne, c'est la clé de voûte. Ici, on est en présence de la philosophie dite spéculative, celle qui cherche la vérité pour elle-même. Et ici, on est en présence de la philosophie pratique. Les opérations humaines. Chacune de ces parties de la philosophie, je dirais ici, donc philosophie première, métaphysique, philosophie du vivant, philosophie de la matière. Chacune de ces parties de la philosophie touche la personne humaine. Alors, je le dis très rapidement, avec tout ce que nous avons vu, on peut le comprendre. Donc, l'homme travaillant, l'homme aimant, l'homme coopérant. 3 dimensions. De la personne. Ça ne s'exclut pas, ça se tient. La philosophie de la matière. Là, je monte. La philosophie de la matière. Étudie l'homme, le corps de l'homme, de la personne. Le corps fait partie de la personne humaine. Donc l'individu fait partie de la personne humaine et ne s'oppose pas. L'homme vivant, c'est l'originalité.
Que j'ai vu
dans les différentes parties. Et on ajoute une sixième, propre à la métaphysique. On verra laquelle. Cherchez, vous trouverez facilement. Une sixième. Et la métaphysique me fera comprendre qu'il y en a une septième. Au sol, je vais mettre ça en rouge. Étant donné que c'est particulièrement important, le rouge ayant disparu. La théologie naturelle. Lorsque je découvre l'être premier, Dieu, je dépasse ce qu'on appelle philosophie, et je suis en présence de la sagesse philosophique, et je découvre une septième dimension. Vous voyez, c'est intéressant de voir comment je découvre à travers toutes les parties de la philosophie ce qu'est la personne humaine. C'est pour ça que je peux dire que toute la philosophie, c'est de découvrir la personne humaine, ce qu'il fallait prouver. Le propre de la philosophie, c'est de découvrir la personne humaine. C'est pour ça qu'on fait de la philosophie, pas pour autre chose, mais pour la découvrir parfaitement, pleinement, il faut toutes ces parties. Parce que ça met du temps. Mais c'est toujours la personne humaine à laquelle je reviens. La métaphysique va permettre de faire la première synthèse, si j'ose dire, en voyant les six premières dimensions et en m'ouvrant à la septième. La septième, c'est que la personne humaine est une créature capable d'adorer. C'est l'aspect religieux de la personne humaine. C'est la septième dimension. Et si je me coupe de cette septième dimension, je reste sur le nombre 6. L'homme, la personne humaine a 6 dimensions. Et elle est capable de refuser la septième. Vous aurez la personne laïque. Volontairement laïque, restant dans la laïcité. Et la laïcité, c'est ce par quoi le laïc est laïque. C'est ça la laïcité. Mais comme l'humanité, c'est ce par quoi l'homme est homme. C'est très bon de faire ce petit exercice parce que ça vous empêche de rester dans l'abstrait et de revenir au concret. Vous avez deux pieds sur terre quand vous êtes dans le concret. Autrement, vous planez. Et c'est l'imagination qui s'en empare. Donc, vous voyez, demain, nous commençons par tout reprendre dans la lumière de la métaphysique. Pour voir que, ici, on a pris toutes les pierres, dans les diverses carrières. Pour vraiment comprendre ce que c'est que la personne humaine, il faut que je sache ce que c'est que le travail. Il faut que je sache ce que c'est que l'amour d'amitié. Il faut que je sache ce que c'est que la coopération. Il faut que je sache ce que c'est que la matière, mon corps. Le vivant. Les six dimensions. philosophie première, en métaphysique, en les organisant. Là, les pierres sont... Mais je n'ai pas l'ordre. Je vois la diversité de ces différents points de vue. Mais quel est l'ordre ? Ah, c'est la philosophie première qui va me donner l'ordre de ces diverses dimensions. Et comme il y a six dimensions, je peux dire qu'il y a six modalités de concevoir la personne humaine. Puisque je peux donner le primat au travail, à l'amour d'amitié, à la coopération, au corps, à la vie. On verra ça. Mais ça, c'est très important, parce que ça vous donne toute une lumière sur les diverses manières d'envisager la personne humaine. Nous terminons la journée, si vous voulez bien, en chantant le Salve Regina. C'est la septième dimension de la personne humaine.